quatrième cours.
On a vu du français, alors on est obligé de se remplacer de la méthode par le fait de la même action, mais il n'y a pas la différence. Alors, si vous regardez les commentaires de Saint-Thomas, vous avez 3e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. On est un décalage. Donc, vous avez un 6e, et nous essayons de mettre les différents aspects sur chacun. Nous avons vu que grand A, petit A, livre d'introduction, le livre Zeta, un livre dialectique, des idées de position, Gamma et Delta, nous avons dit livre critique, réflexion critique, et livre Epsilon, nous allons voir que c'est encore un livre critique. Autrement dit, nous entrons proprement dans l'analyse métaphysique qu'avait le livre Zeta. Donc encore un livre, je n'ai pas de titre de recherche et d'hypothèse. Pourquoi il faut essayer de comprendre la diversité des caractères de ces différents livres. De fait, dans cette réflexion critique, il y a deux aspects. Premièrement, Aristote va montrer la division des sciences théorétiques, les grandes sciences théorétiques, la physique, les mathématiques et la théologie. Alors vous voyez, tout le problème qui se pose ici, c'est de savoir les liens qui existent entre cette science qu'il appelle ici théologie et ce qu'il a appelé précédemment la science la plus universelle de l'être en tant qu'être, ou la philosophie première qui est sagesse. Et la seconde partie du livre, à laquelle nous irons un peu plus vite, c'est le problème de l'accident, de l'être pris de façon accidentelle, pour montrer qu'il n'y a pas de science au niveau de l'être accidentel. Cette seconde partie est très nettement contre les sophistes. Là, je vous renvoie à toutes les études de banque, c'est très intéressant, sur ce point de vue-là. C'est que de fait, l'être pris de façon accidentelle ne peut pas donner lieu à la science. Alors vous comprenez comment il va sévir. Il va nous montrer ici que de fait, la science théorétique première, celle qui est la plus universelle, l'être en tant qu'être, n'exclut rien. Et pourtant, l'accident n'est pas tout. Là, ça pose un très gros problème. Nous y reviendrons peut-être. Là, il y a tous les problèmes très importants qu'Aristote a souligné au point de départ, c'est que pour Aristote, tout n'est pas objet de science. Autrement dit, la réalité est toujours plus que la science, en définitive. Et je crois que c'est ici qu'Aristote le montre de la manière la plus critique, de la manière la plus pertinente. Eh bien, le danger toujours, dans une certaine perspective positiviste ou dans une certaine perspective idéaliste, c'est d'identifier la connaissance et la réalité. De croire que notre connaissance, dans la mesure où elle sera parfaite, sera un décalque parfait de la réalité. Il y aura donc une espèce d'adéquation. Ici, Aristote essaie de montrer, c'est dans une perspective critique, il essaie de montrer que la science, si parfaite qu'elle soit, n'arrivera jamais à être adéquate à la réalité. Et la raison profonde qu'il nous dit ici de fait, c'est que la réalité que nous expérimentons, cette réalité physique, indique la potentialité de la matière. Et que la potentialité de la matière implique donc quelque chose qui échappe toujours à notre possibilité de le saisir scientifiquement. Alors nous y reviendrons au terme, je vous dis ça uniquement pour orienter la recherche que nous faisons maintenant. Alors, dans ce premier chapitre, Aristote commence à nous rappeler ce que nous cherchons. Ce sont les principes et les causes des êtres en tant qu'êtres. Donc, il l'a déjà dit, le livre Gamma, il l'a déjà dit au point de départ, dans le livre Grand A. Donc, nous retrouvons toujours cette grande affirmation. Ce que nous recherchons, c'est les principes et les causes des êtres en tant qu'êtres. Et Aristote souligne qu'il s'agit des êtres en tant qu'êtres. C'est ça que nous cherchons, c'est-à-dire ce qui est en tant qu'être. Alors, il nous montre d'abord qu'il y a quelque chose de commun dans cette recherche, à l'égard de toutes les autres recherches scientifiques. Et puis ensuite, il nous montre qu'il y a quelque chose de propre à cette recherche. Il y a quelque chose de commun à cette recherche. Ceci est commun à toute recherche scientifique. Toute recherche scientifique recherche les principes et les causes. Alors ceci, voyez dans le second livre des analytiques, livre premier, chapitre 2, 72, 71b, 10 et suivant. Aristote nous donne le statut de la connaissance scientifique. Donc ça, c'est vraiment, je crois, un des aspects très propres de la connaissance d'Aristote, de la, si vous voulez, la critique aristotélicienne, de la logique aristotélicienne, comparativement à Platon. Ce serait très intéressant, nous reverrons avec Platon, de bien voir le statut différent de l'épistémé chez Platon et de l'épistémé chez Aristote. L'épistémé chez Aristote, c'est vraiment la recherche des principes et des causes. Ça, il le dit constamment, je vous relis ce passage dans les postérieurs des secondes analytiques. Nous estimons posséder la science d'une chose, d'une manière absolue, et non pas à la façon des sophistes, d'une manière purement accidentelle. Quand nous croyons que nous connaissons la cause par laquelle la chose est, et que nous savons que cette cause est celle de la chose, et qu'en outre, il n'est pas possible que la chose soit autre qu'elle l'est, il est évident que telle est la nature de la connaissance scientifique. Ce qui le montre, c'est l'attitude aussi bien de ceux qui ne savent pas que de ceux qui savent. Les premiers croient se comporter comme nous venons d'indiquer, et ceux qui savent se comportent aussi en réalité de cette manière. Donc vous voyez, pour son Aristote souligne que l'épistémé, la connaissance scientifique, c'est la recherche des causes propres. Toute science discursive, dit-il, épistémé dianoétique, ou participant quelque chose du raisonnement, dianoia, donc vous voyez tous ces mots qui sont là, épistémé dianoétique, ou tout simplement la connaissance dianoétique, s'occupe des principes plus ou moins rigoureux. Il nous donne l'exemple, il y a une cause de la santé, une cause du bien-être. Donc rechercher ce que c'est que la santé, c'est rechercher justement les causes propres de la santé. Rechercher au point de vue mathématique, dans les êtres mathématiques, il y a des principes et des causes et des éléments. Et donc le mathématicien doit rechercher les lois mathématiques, et en recherchant les lois mathématiques, il recherche les éléments. Causes et moins, ça se ramène aux éléments. Donc voilà ce qui est commun à toute connaissance. Non, il faut essayer, vous voyez, progressivement, parce que c'est là la toute difficulté. Hein, vous avez dit très rapidement la dernière fois, nous le revoyons ici. Ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre ce que c'est que cause et principe dans la philosophie d'Aristote. Ce qui n'est pas commun. C'est facile de l'affirmer, mais c'est difficile à découvrir. Tant qu'on n'a pas découvert un homme, la cause et le principe, il faut essayer de découvrir ce que représente la cause et le principe dans la philosophie d'Aristote. Parce que toute la philosophie d'Aristote n'a pas d'autre but que de nous faire découvrir ce que représentent les causes et les principes. Or, Aristote dit textuellement, à la fin de la méditation des secondes analytiques, que les principes et les causes ne peuvent se découvrir que par l'induction. C'est l'induction qui nous permet de découvrir les causes et les principes. Alors, voyez que le propre de la science, c'est donc de se servir de l'induction pour découvrir les causes et les principes, et en réalité, de chercher les propriétés des réalités à partir de ces causes et causes. Donc, première affirmation, c'est que la connaissance scientifique implique la recherche plus ou moins rigoureuse. Aristote là est très souple. Autrement dit, la recherche des principes et des causes n'a pas du tout toujours la même rigueur. Deuxièmement, mais ce qui est propre à cette recherche qui est la recherche des principes et des causes de l'être en tant qu'être, ce qui est propre à cette recherche, c'est qu'elle est auprès de l'être à d'une manière absolue. Tandis qu'au contraire, les autres sciences ne sont pas auprès de l'être pris du bateau absolu. Alors là, c'est un terme aussi technique qu'il faut bien comprendre. Le to-on est pris ici à l'autre. Que Satana traduira ici super. Alors voyez la question ici. Le to-on est on. Vous vous souvenez ce que nous avions vu la dernière fois. L'être, ce qui est en tant qu'être. Je crois qu'on peut dire que c'est la même chose que le toal atle, c'est-à-dire l'être qui s'intitule. Je crois que c'est important. Alors on pourrait ajouter, pour tous ceux qui s'intéressent à la métaphysique de saint Thomas, saint Thomas a dit quelquefois que l'esse incommuni ou l'ens incommuni, c'est la même chose. Et ça, c'est Aristote le dit jamais. Ça, c'est l'intrusion d'Albert le Grand qui fait cela. Peut-être Aristote, il faudrait voir. Mais au fond, ce qui est très important de voir, c'est qu'Aristote reste toujours le toon et homme et le toon à toon. C'est-à-dire l'être pris d'une façon absolue, simplifiée. On considère uniquement l'être et rien d'autre. On est tous ramène toujours à l'être. Les déterminations de l'être, ça, ça regarde les autres. C'est ce qu'il nous dit immédiatement. Les autres sciences sont auprès d'un on-ti. Donc l'opposition, c'est le on-ti. Alors le ti s'oppose à toi. Le on-ti, ça veut dire un être déterminé, cet être particulier. Ou il nous dira encore un dénosti. Je vous donne ces termes parce que ce sont les termes techniques qui sont très importants de bien sûr. Donc l'être pris de façon simple qui s'oppose à l'homme-ti, c'est-à-dire tel être particulier, un genre particulier d'être. Les mathématiques ne regardent pas l'être comme tel. Les mathématiques regardent telle détermination, un homme-ti, un génome-ti, donc un certain genre particulier de l'être. Donc là, nous voyons la distinction qu'Aristote fait entre cette science de l'être en tant qu'être et les autres sciences. Troisième point, il nous dit que cette science qui étudie l'être pris de façon absolue, le homme à flot, l'être en tant qu'être, va être capable de saisir le qui est, ce que ne font aucun autre, aucune autre science. La conséquence de chercher le toon à flot, donc de chercher l'être d'une manière absolue, c'est qu'on devient capable de saisir le qui est. On peut donner une réponse au qui est. Le qui est, vous savez, Tricot traduit toujours qui est l'essence. Je veux bien, c'est de comprendre. Je veux pas, c'est de comprendre. Parce que le qui est par mode d'interrogation. Alors je crois qu'on peut parler tout à fait égal. C'est le qu'est, profondément. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité? C'est son essence. Je veux bien. Il vaut mieux garder le mode si-est-si qui est interrogatif. Autrement dit, la science de l'être en tant qu'être interroge l'être en profondeur. Vous voyez, c'est tout de suite pour nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas uniquement de regarder tous les vers, mais c'est de regarder l'être en profondeur, le qui est. Alors ce que les autres, ce que ne font aucun autre. Donc du qui est-ci, les autres sciences, les autres connaissances scientifiques, les unes rendent le qui est-ci en le ramenant au sens. Ce sont des sciences qui ramènent uniquement ce qui est. Les autres le posent comme hypothèse. Puis elles démontrent avec plus ou moins de force les propriétés essentielles du genre qu'elles considèrent. Donc, il est évident que ce n'est pas une démonstration de l'ousia ni du siesti que ces sciences nous donnent. Donc, ce qui caractérise cette connaissance de l'être en tant qu'être, c'est de saisir le siesti et l'ousia. dit explicitement, ça c'est important à souligner, que nous verrons la première démarche de Sarissa ensuite, c'est de regarder Ouzia, et nous reviendrons pour essayer de saisir le lien entre Ouzia et Dieu. Alors je vous signale tout de suite, n'est-ce pas ? Donc, la grande différence qu'Aristote souligne entre cette science de l'être en tant qu'être, science première, absolument universelle, dont il a déjà parlé précédemment, c'est qu'elle recherche les causes propres de ce qui est, mais qu'en réalité, elle regarde l'être comme tel, et donc elle saisit le qui est qui et l'oublie. Ensuite, il précise, les sciences ne disent pas si le, les sciences ne disent pas si le génos dont elles traitent est ou n'est pas. Encore une autre distinction. Car c'est du même raisonnement, Yanoya, c'est le même raisonnement qui nous permet de manifester, de voir clairement le qui est-ci et le elle est-ci. Donc cette science qui va chercher le qui est-ci va être en même temps la science qui va lui donner le elle est-ci. C'est-à-dire si la réalité existe, si elle est. N'est-ce pas ? Si elle existe ou si elle n'est pas. Le qui est-ci, c'est donc l'essence, si vous voulez, dans l'essence ou la substance, et la nef. C'est la même science qui doit donc s'occuper de savoir si la réalité existe profondément dans son existence et ce qu'elle est. Donc voyez, si je résume ce premier moment de l'étude critique d'Aristote de cette science première par rapport aux autres sciences, je peux dire ceci. Comme toutes les sciences recherchent les causes et les principes de ce qui est, de ce qu'elles recherchent. De son sujet, de la réalité qu'elle connaît. C'est le propre de la connaissance scientifique. Mais ce qui caractérise cette science, c'est de regarder l'être d'une façon absolue. Alors que les autres sciences ne regardent pas l'être d'une manière absolue, mais ne regardent qu'un génosti, c'est-à-dire un être particulier. Telle détermination d'être. Ce qui caractérise cette science qui recherche l'être d'une façon absolue, c'est de pouvoir regarder le qui est-ci et d'où vient. Alors que les autres sciences ne regardent pas le qui est-ci et d'où vient. Les autres sciences ne font que manifester d'une manière sensible le qui est-ci. Et les autres sciences ne peuvent que d'une manière hypothétique parler du qui est-ci. Donc seule la métaphysique, pour Aristote, regarde le qui est-ci et d'où vient. C'est le caractère propre de la métaphysique. De regarder le qui et le via. Cette science regarde le qui et le via, elle peut regarder aussi si les réalités existent. Parce que c'est la même science qui regarde le qui et qui regarde si les réalités existent. C'est-à-dire porter au sens propre un jugement résistant. Alors après avoir donné ces distinctions, nous entrons maintenant dans quelques précisions par rapport à la physique, par rapport aux mathématiques et par rapport à ce qu'Aristote appelle la théologie. Alors, la physique, nous n'oublions jamais, parce que c'est une profonde distinction qui revient constamment dans Aristote, et qui a été reprise dans Saint-Thomas après, c'est toujours ce parallélisme entre ces trois grandes sciences théologiques. Donc, la physique, qui est génétiquement la première, physique ou philosophie de la nature. Pour Aristote, c'est la même chose. Alors pour nous, quand nous parlons de physique, il vaut peut-être mieux dire philosophie de la nature. Mais Aristote veut dire physique. Alors c'est la première détermination qu'il va donner. Ensuite, il va regarder ce que représente les mathématiques. Et puis en troisième lieu, la théologie. Et il va montrer que la théologie, c'est la science de l'être en tant qu'être. C'est pour ça que c'est un lieu particulièrement important au point de vue des liens. Alors, comme ça, ça pose des quantités de problèmes. La physique, donc 1025b18. La physique est une science d'un genre déterminé, donc un génosti. Au sujet de cette substance, en qui est le principe de son mouvement et son repos. avec ça du substance. Donc la physique regarde un genre déterminé, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde des substances en qui est le principe de son mouvement et de son repos. C'est ce qu'on appelle la nature. La physique regarde la nature et c'est pour ça que c'est la physique. Qu'est-ce que c'est que la nature? C'est le principe immanent du mouvement. Une réalité qui se meurt, une réalité qui bouge. Principe immanent du mouvement et du repos. Car elle n'est ni pratique, ni poétique. Alors ici, je suis obligé encore de revenir sur une distinction extrêmement importante dans la structure de la philosophie d'Aristote, et dans cette structure que je représente la recherche proprement scientifique, c'est de voir les trois aspects distincts, ce qu'Aristote appelle la science théorétique, la science pratique, quand je dis pratique, c'est très difficile à traduire, c'est pratique. Évidemment, c'est pratique, c'est très facile à dire. Mais le mot pratique ne dit pas tout à fait ce que dit pratique. Alors il faut bien voir qu'il y a un petit décalage. Ou la science politique. Alors politique. Mais la théorétique. Ce que je veux montrer ici, ce que je veux montrer, c'est que la physique est théorétique. Elle n'est ni pratique, ni politique. Et alors il va donner une définition du pratiqué et du poétiqué pour nous faire comprendre que la philosophie de la nature et cette physique ne peut pas se ramener à une science pratique ni à une science poétique. Alors voici son raisonnement. Car le principe de toute production, poétique, le principe de toute production est dans l'art. C'est nous ou l'art, ou un pouvoir, un humanisme. Et le principe de toute pratique est dans l'agent, le pratonique. C'est la pro-agressie. Car il y a identité entre le pratikon, donc l'objet propre de l'action, et le tout pro-agressor, l'objet du choix. Donc, de sorte que si Dianoïa est ou pratiqué, ou poétiqué, ou théorétiqué, la physique ne peut être que théorique. C'est un raisonnement par mode de vie. Vous voyez bien, c'est un raisonnement. Je reprends ce que vous avez dit, c'est intéressant étant donné que nous touchons là une structure très fondamentale de ce que représente l'épistémé chez Aristote. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est que l'épistémé chez Aristote, qu'est-ce que c'est que la science d'Aristote. La science pour Aristote, il reprend ça, je dirais, c'est d'une façon assez classique, c'est déjà présent chez Platon, mais c'est repris chez lui de façon beaucoup plus critique. La science, la dionaïa, donc le raisonnement, la science, est ou pratiquée, ou poétiquée, ou théorétiquée. C'est-à-dire, elle est ou théorétique, ou poétique, ou pratique. Alors, pratique, vous voyez bien le sens de pratique ici. Hein? Le sens de pratique ici, c'est l'action. C'est l'action. On dira ensuite, en latin, c'est l'agere. C'est l'agir. C'est-à-dire, c'est l'éthique. Le pratique ici, c'est le niveau éthique. Tandis qu'au contraire, le poétique, c'est le niveau du facere. Le niveau de la fabrication. C'est-à-dire de l'œuvre d'art. On est donc les trois grandes distinctions de la science, théorétique, pratique et poétique, qui pour Aristote structure vraiment les trois manières, les trois cheminements scientifiques. Oui, tout ne se ramène pas du tout au théorétique pour Aristote. Le théorétique est un type particulier de science. La science par excellence, la science la plus pure, mais ce n'est pas la seule science. Il y a d'autres sciences, et ces autres sciences sont justement les sciences pratiquées et politiquées, c'est-à-dire les sciences de l'éthique. La philosophie éthique est dans l'ordre du poétique, qui n'est pas du tout théorique. Et puis la science du poétique, qu'il appellera justement la poétique, qui sera essayer de comprendre ce que représente l'activité artistique. Donc voyez bien que la première détermination d'Aristote, c'est d'essayer de préciser que la physique, qui est une science, ne peut pas être une science poétique. Pourquoi ? Parce que le propre de la science poétique, c'est justement que le principe, c'est le but de l'art. Et donc, ce n'est pas immanent à la réalité qu'on considère. On vient de dire que ce que regarde le physicien, c'est la réalité qui a possède en elle-même son principe de mouvement et de repos. C'est la physique. Or, la physique possède en elle son principe immanent de repos et de mouvement. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'œuvre d'art, quand il s'agit d'étudier ce que représente la production, le propre de l'œuvre d'art, c'est que, précisément, le principe de l'œuvre d'art n'est pas immanent à l'œuvre d'art. Et quand vous regardez le livre de Monod d'aujourd'hui, Monod prend exactement les mêmes principes qu'Aristote pour distinguer ce que représente l'œuvre d'art du vivant. C'est très curieux. Il montre que ces principes-là n'ont pas beaucoup changé. Parce que Monod voudrait bien changer, et il ne peut pas changer. Qu'est-ce qui dit la différence entre le vivant à l'être naturel? Et quand il dit ce que c'est que l'œuvre d'art, il dit tout simplement, le propre de l'œuvre d'art, c'est d'impliquer un principe extrinsèque. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit du vivant, qui est un être naturel, son principe est immanent. Monod ne fait pas de référence à ça. Et il répète ce que traditionnellement on a toujours dit. Et alors c'est quand même important de voir que c'est Aristote le premier qui fait ce discernement. C'est le premier qui, comparativement à Platon, c'est le premier qui fait ce discernement très net entre la connaissance théorétique et la connaissance politique. Parce que justement, la connaissance théorétique est une connaissance qui découle un principe qui nous est donné dans la réalité. Alors que la connaissance poétique découvre un principe qui est dans l'art, qui fait son œuvre. Et c'est là la très grosse différence. Et je crois que ça nous fait tout de suite comprendre les deux aspects différents entre une connaissance spéculative, c'est-à-dire une connaissance contemplative qui regarde une réalité dont on découvre en elle un principe et une cause, et au contraire une connaissance proprement poétique, c'est-à-dire de l'œuvre d'art, qui saisit que le principe de l'œuvre d'art est nécessairement extrinsèque à l'œuvre d'art, et d'autres que l'œuvre d'art. De même, il nous dit que la connaissance théorique ne peut pas être une connaissance pratiquée, parce que dans ce que représente le propre de la connaissance pratiquée, c'est que le principe, c'est la proagressie, c'est-à-dire le choix. C'est le choix que principe de l'œuvre de l'agir. Si c'est le choix que principe de l'œuvre de l'agir, le choix implique toujours liberté, c'est-à-dire de ne pas être déterminé. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit d'une connaissance théorique, on saisit un principe dans la réalité, et ce principe implique sa détermination. Et je crois que ça, c'est très important de saisir ça. C'est très important d'essayer de saisir ces trois orientations de ces sciences, parce que c'est de fait un lieu classique. C'est important de saisir ces trois orientations, connaissance spéculative, connaissance théorique, connaissance pratique. Alors la physique ne peut être que théorique auprès de cette sorte d'être qui est capable de mouvement, parce que précisément elle regarde l'ousia, la nature, de cette réalité qui est nue et qui est capable de se reposer. Donc elle saisit un principe immanent à la réalité. Et c'est pour ça qu'elle ne sait pas son objet. Tandis qu'au contraire, la connaissance théorique et la connaissance pratique réalisent l'action. C'est la très grosse différence entre les deux. Il précise ensuite que cette connaissance physique, donc qui est théorique, cette connaissance théorique regarde l'ousia. Il est le mot ousia. Très curieux. Dans la physique, dans la philosophie de la nature, il ne dira jamais ousia. C'est ça qui fait dire que ces textes peuvent être des textes très très proches du platonisme, d'une certaine manière. C'est assez curieux, ça pose un problème. Pourquoi le fait qu'il emploie le mot ousia et pas le mot physique, le mot physique. Donc cette physique considère l'ousia, celle selon le logos, qui arrive le plus souvent. Donc, elle considère, elle regarde l'assistant selon le logos. C'est-à-dire qu'elle regarde l'assistant selon sa détermination. Ce qu'il y a d'intelligible dans cette substance, cette partie de mouvement. Elle le considère donc selon le logos, celle selon le logos, sans celle qui arrive le plus souvent. Étant donné que nous sommes dans un monde qui est le monde du mouvement, le monde de la génétique, dès que nous sommes dans le monde du mouvement, il y a toujours des ratés. Il arrive des accidents. Puisque le propre de la matière, c'est la cause errante. Si le propre de la matière, c'est la cause errante, c'est source du hasard, nécessairement, tout ce qui relève de la cause errante et de l'indétermination ne peut pas être saisi par la physique, ne peut pas être saisi par la philosophie de la nature. Et c'est pour ça qu'il précise que la philosophie de la nature saisit l'ousia selon le logos, comme il arrive le plus souvent, ou du plus souvent, comme il arrive le plus souvent. Mais, précise-t-il, le propre de cette physique, c'est de regarder cette ousia non séparée. C'est-à-dire en impliquant toujours le point de vue de la matière. Le propre de la connaissance de la philosophie de la nature, c'est d'impliquer toujours le point de vue de la morphe, c'est-à-dire de la forme en tant qu'elle détermine la nature. Il y a du sens de philosophie de la nature, il n'y a pas besoin de vous préciser, vous très bien, c'est simplement un rappel. Ensuite, et ceci alors est très important, c'est aussi un point extrêmement important dans la doctrine d'Aristote. Pour essayer de préciser une science avec une autre science, Aristote nous dit qu'il faut regarder comment une science définit ses principes, ou définit ses conclusions. Saint-Thomas reprendra la même chose lorsqu'il nous dira que on ne peut distinguer une science d'une autre science qu'en regardant la manière dont une science définit. Autrement dit, le lieu le plus précis de la science, nous dirions aujourd'hui la loi. La loi, c'est une définition. C'est une autre définition, mais c'est une définition. Et donc, la manière dont on définit nous permet de saisir le caractère propre d'une science. Voici ce qu'il dit. Il ne faut pas oublier comment on précise le toti eimenai et le logos. Donc le toti eimenai, la cuidité. Vous savez bien ce que c'est que la cuidité. On nous y reviendrons. Le toti eimenai, la cuidité. Il faut petit à petit arriver à comprendre ce que ça signifie. Bon, parce que c'est très très important dans la science. Je ne l'insiste pas ici parce que nous reverrons avec la substance. C'est une chose très importante. Alors mettez toti eimenai, cuidité, traduisez. Pour que ce soit un petit peu plus intelligible pour vous, je pense. Ce n'est pas une texte féroce. Alors, le taux Einan et le IL. Je crois qu'il faut traduire toujours comme ça. J'ai une édition aujourd'hui, il faut intégrer en fait, je ne sais pas. Voyez bien. Le IL du taux Einan. C'est ça la cuisine. Le IL du taux Einan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait d'être, le toena, le fait d'être, le tiel du fait d'être, c'est-à-dire ce qui demeure dans le fait d'être. La cuidité, c'est ce qui est au-delà du mouvement. Ce qui résiste au mouvement. Et le mouvement ne possède pas de cuidité. C'est un flou. Un flou. On ne peut pas définir le mouvement. Le propre du mouvement, c'est d'être absolument en dehors de toute définition. Parce que le mouvement n'a pas de forme. Le mouvement n'a qu'une détermination dans un devenir perpétuel. Alors comprenons que le toti eimenai est justement quelque chose qui est au-delà du fluxus, au-delà de ce qui coule tout le temps, le pantarei d'Héraclite. Le pantarei, c'est justement ce qui coule toujours, ce qu'on ne peut pas attraper, le fluxus perpétuel. Alors le toti eimenai, c'est ce qui est au-delà du fluxus, au-delà du mouvement. Le mouvement est dans la pure succession. Le mouvement étant dans la pure succession, il n'y a rien qui demeure. Qu'est-ce qui demeure? C'est le taux de l'énergie. Oui, ça c'est la grande question que se sont posées tous les Grecs. Comment pouvons-nous définir? C'est la grande question de Socrate, c'est la grande question de Platon, c'est la grande question d'Aristote. Et ça reste toujours la même question. Comment pouvons-nous définir? Qu'est-ce que ça représente de définir quelque chose? Qu'est-ce que nous saisissons quand nous définissons quelque chose? Quand on définit quelque chose, on saisit ce qui est au-delà du mouvement. Parce que si on saisit uniquement ce qui est dans le mouvement, cette réalité passe et change. Alors le Tokyo Neima, donc, c'est ce qui, en quelque sorte, est saisi par le logos. C'est pour ça qu'il est toujours en parallèle les deux. Le logos, c'est justement ce qui nous permet de saisir la raison des choses. Logos sera traduit par ratio. La raison des choses. Vous saisissez ce qui résiste à la succession. Alors, voyez bien cette phrase très importante. Je crois qu'elle est très très importante à bien saisir, elle est très dense. Il ne faut pas oublier. Pos esti. Comment est le totiemena et le logos. Donc, n'oublions pas, quand on parle d'une science, n'oublions jamais le pos esti. Comment est le comment de la saisie du totiemena et du logos. Autrement dit, si vous voulez, quand on veut regarder ce qui caractérise une science, ce qui spécifie une science, il faut regarder comment cette science est faite. Faut de cette manière de définir. Car sans cela, la recherche ne peut se faire. Pas possibilité de chercher quelque chose. Si vous ne regardez pas le faux testif